de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, c'est Rita, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français et diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassade d'Indonésie développe la coopération de revitalisation ferroviaire au Zimbabwe. Kalimantan occidental tire profit du déplacement de la capitale. Quatre destinations touristiques super prioritaires ciblées sur devises élevées. Des milliers de fleurs de bougainville sont plantées pour réduire la pollution à Jakarta. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla encourage les start-up d'augmenter la production. Le gouvernement de la ville de Padang ouvrira le premier restaurant Padang au Vietnam. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement de la République d'Indonésie, par l'intermédiaire de l'ambassade d'Indonésie à Harare, continuera cette année à travailler au développement de la coopération en matière de revitalisation de chemins de fer au Zimbabwe et en Zambie. L'ambassadeur d'Indonésie au Zimbabwe et en Zambie, M. Dewa M. Juniarta Sastrawan, a déclaré qu'à partir de 2019, l'ambassade d'Indonésie à Harare donne la priorité au développement de la coopération dans la revitalisation du transport de fret par chemin de fer au Zimbabwe et en Zambie. Selon l'ambassadeur Dewa, dès cette année, l'ambassade d'Indonésie à Harare promeut l'excellence de l'Indonésie dans la création d'une connectivité des infrastructures de transport au Zimbabwe et Zambie afin d'obtenir des avantages de la mise en œuvre de l'accord de zone de libre-échange de l'Afrique qui a commencé à être mis en œuvre dans les deux pays. Le gouverneur de Kalimantan Occidental, M. Sutarmiji, a déclaré que la province tirerait des avantages optimaux de la décision du président Joko Widodo de déplacer la capitale indonésienne de Jakarta à l'île de Kalimantan. Le déplacement de la capitale accélérerait le développement de l'île et compte tenu de leur proximité géographique, les provinces de Kalimantan Occidental et Kalimantan Oriental pourraient être les candidats les plus appropriés, a déclaré dimanche à Pontianak. Sutarmiji a déclaré que la position géographique de Kalimantan Occidental est plus proche de Jakarta, tandis que celle de Kalimantan Oriental est plus proche de l'est de l'Indonésie. En raison de ses meilleures infrastructures, Kalimantan Oriental possède de grandes chances d'être choisi comme emplacement de la nouvelle capitale, car il est perçu comme étant plus près que toutes autres provinces. En dehors de la province qui sera choisie, Kalimantan Occidental tirerait des avantages optimaux de ce déplacement de la capitale en raison de l'existence du port international de Kijing. Le port maritime pourrait supporter les entrées et les sorties de marchandises destinées à la nouvelle capitale. Le développement des quatre destinations touristiques super prioritaires est inclus dans la politique stratégique et obtient une allocation spéciale dans le projet de budget de l'État 2020. Ces quatre destinations super prioritaires ont pour objectif de fournir au pays des devises d'un montant de 5,5 milliards de dollars américains. Le ministre indonésien du Tourisme, M. Arief Yahya, a déclaré dimanche que le gouvernement a alloué le budget de 6 400 millions de rupiah en 2020 pour la construction d'infrastructures de destinations super prioritaires. Ces quatre destinations prioritaires sont le lac Toba dans le nord de Sumatra, Borobudur dans le centre de Java, Mandalika dans l'ouest de Nusa Tenggara et Labuan Bajo dans l'est de Nusa Tenggara. Arief Yahya a déclaré que chaque visite d'un million de touristes étrangers, le potentiel des devises de tourisme atteint 1 milliard de dollars américains. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouverneur de Jakarta, M. Anies Baswedan, a initié la plantation de 100 000 plantes de bougainville au long des rues Sudirman jusqu'à MH Tamrin. Les plantes de bougainville ont été choisies par le gouverneur car bougainville est considérée comme l'une des plantes capables d'absorber une pollution atmosphérique très élevée. Il a commencé à planter bougainville dimanche. Il pense que la plantation massive de fleurs de bougainville était capable d'absorber les polluants dans la principale zone de communication du protocole de la capitale. En plus d'absorber des polluants atmosphériques, Anies a également expliqué les caractéristiques de cette plante de bougainville. Selon lui, bougainville a été choisi pour être planté parce qu'il possède également un élément esthétique incroyable et peut soulager le stress. En plus de participer à la plantation, Anies Baswedan a également donné les graines de plantes aux représentants des directeurs d'école dans 6 régions de Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla a encouragé la génération du millénaire indonésien à développer les start-up dans le domaine du commerce électronique. Elle doit avoir une valeur ajoutée en augmentant la production nationale. Cela a été dit par Yusuf Kalla lors de la participation au mouvement national des 1000 start-up numériques à Istora Senayan, Jakarta, dimanche. Les start-up sont l'un des moteurs de l'économie indonésienne en raison du changement de comportement à l'ère de la perturbation. Mais plusieurs start-up avec une grande valeur de capitalisation ou Lincor en Indonésie est actuellement dominé par les start-up business dans le domaine des services et n'est pas encore accompagné par l'augmentation de la production de produits de base nationale. Le vice-président a rappelé à la génération du millénaire que le marché n'était qu'un moyen de vendre un produit, mais la majorité des biens qui étaient vendus ne correspondaient pas à la production nationale. Par conséquent, il a rappelé à toutes les start-up business de ne pas oublier les activités de production nationale afin d'accroître leur valeur. Le bureau commercial de la ville de Padang dans l'ouest de Sumatra ouvrira le premier restaurant Padang au Vietnam situé à la ville de Ho Chi Minh et dans la province de Baria Vung Tau. Cette information a été transmise par le chef du bureau commercial de la ville de Padang, Endrizal, lors d'une visite à Wisma du Consulat Général d'Indonésie à Ho Chi Minh récemment. Selon Endrizal, l'ouverture du restaurant Padang faisait suite à la coopération entre le gouvernement de la ville de Padang et la province de Baria Vung Tau dans le secteur du commerce. En plus d'être le premier au Vietnam, ce restaurant deviendra également une sorte de galerie et un lieu de promotion touristique de la ville de Padang et Sumatra Ouest, ou même l'Indonésie en général. Il espérait que les touristes étrangers qui visitaient ce restaurant peuvent être attirés à visiter Padang afin qu'ils puissent augmenter leurs revenus dans le secteur du tourisme à Padang. Pour attirer l'intérêt des touristes, les touristes auront également la possibilité de séjourner gratuitement dans des hôtels mentionnés dans le programme de coopération des affaires aux affaires. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le sens de l'indépendance ». Le mois d'août peut être considéré comme un mois sacré pour le peuple indonésien. Il y a 74 ans, précisément le 17 août 1945, le peuple indonésien a proclamé son indépendance après plus de 350 ans de colonisation par d'autres nations. L'indépendance réalisée par les guerriers et le fondateur de la nation ne sont pas que des phrases vides sans signification. Il y a une longue histoire. L'indépendance indonésienne n'a pas été obtenue facilement. Ce n'est pas un cadeau. Les guerriers et le fondateur de la nation sont prêts à sacrifier leur vie et leurs biens pour accéder à l'indépendance libre de l'occupation d'autres nations. L'indépendance est devenue l'un des moments qui ont réuni tous les Indonésiens. Des centaines d'années, le peuple indonésien s'est battu pour l'indépendance, mais ses efforts ont eu moins de succès parce que la lutte menée à cette époque était seulement régionalement. Le peuple indonésien n'est pas encore uni. Après la fondation de l'organisation de Budi Utomo en 1908 et la tenue du deuxième congrès de la jeunesse qui a produit le pacte pour la jeunesse en 1928, le peuple indonésien a commencé à comprendre le sens de l'unité pour l'indépendance. Maintenant, après 74 ans d'indépendance de l'Indonésie, l'unité nationale est absolument nécessaire. Comme le président Joko Widodo l'a déclaré avant la cérémonie de la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie au Palais Merdeka Jakarta samedi, l'intégrité de l'État unitaire de la République d'Indonésie était primordiale. Il a conseillé de ne pas sacrifier la République d'Indonésie uniquement à cause de différences de choix de région, de gouverneur et de président. Espérons qu'à la 74e année de l'Indonésie, les Indonésiens comprendront de mieux en mieux le sens de l'unité pour atteindre leur objectif, à savoir faire progresser l'Indonésie. Autrefois, le peuple indonésien se sont battus pour l'indépendance. Maintenant, la nation indonésienne se bat pour pouvoir maintenir et remplir son indépendance à travers d'un véritable travail. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesia, Cher ami, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 19 août. Le 19 août 1980, Saudia, le vol 163 s'est écrasé. Le vol 163 de Saudia, l'avion Lockheed L-1011 a atterri à Riyad, en Arabie Saoudite, en provenance de Karachi, au Pakistan. Cet atterrissage a tué tous ses passagers, totalisant 287 passagers et 14 membres d'équipage. Cet accident d'avion est le plus grand de l'histoire de l'Arabie Saoudite à ce jour. Lors de l'atterrissage, l'avion a pris feu à l'intérieur de la cargaison. Le moteur numéro 2 a pris feu, empêchant certains passagers de sortir de l'avion. Le 19 août 2003, l'explosion d'une bombe au siège de l'ONU en Irak. Un attentat à la bombe a eu lieu à l'hôtel Canal à Bagdad, en Irak, le 19 août 2003. L'explosion a tué au moins 22 personnes, y compris le représentant spécial des Nations Unies en Irak, Sergio Vieira de Mello, et blessé plus de 100 autres personnes. Pour commémorer l'événement, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 19 août la Journée humanitaire mondiale. Le 19 août 2017, les Jeux de l'Asie du Sud-Est 2017 sont ouverts. Les Jeux de l'Asie du Sud-Est 2017, ou les 29e Jeux de l'Asie du Sud-Est, se sont tenus à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 19 au 31 août 2017. Au total, 38 sports représentant 404 matchs pour les Jeux ont été inscrits sur la liste finale approuvée par SEAGF le 14 juillet 2016. La Malaisie en tant qu'hôte est devenue championne avec 323 médailles remportées. Après la Malaisie, les 5 pays les plus médaillés sont la Thaïlande, le Vietnam, Singapour et l'Indonésie. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Segalanya.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Ayo Indonesia Bisa, chantée par Elo. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre, les ministères et les institutions obtiennent le budget le plus élevé du projet de budget de l'État ou RAPBN 2020. Le ministère de la Défense, le ministère des Travaux publics et du Logement public, PUPR, et la police de la République d'Indonésie, Polri, sont devenus les trois ministères et institutions qui ont reçu la plus grande partie du budget dans le projet de budget d'État RAPBN 2020. Comme l'a déclaré la ministre des Finances, Sri Mulyani, dans une conférence de presse sur le projet de budget d'État 2020 et la note financière à Jakarta vendredi. Sri Mulyani expliquait que le ministère de la Défense chargé de la Défense nationale se voyait attribuer la plus grande allocation budgétaire de 127,4 trillions de rupiah ou en hausse de 16,2% par rapport aux prévisions budgétaires de cette année de 109,6 trillions de rupiah. Tandis que le budget du ministère de PUPR est alloué à 120,2 trillions de rupiah et la police nationale indonésienne obtient 90,3 trillions de rupiah. Sri Mulyani a expliqué que l'allocation budgétaire de la police nationale était également liée à la nécessité de sécuriser les élections régionales ou pilkada simultanément en 2020. Pendant ce temps, le plafond des institutions fiscales d'infrastructure comme ministère de PUPR est également élevé, car le gouvernement a augmenté le budget de l'infrastructure de 4,9%. Sri Mulyani a déclaré que la plupart du grand budget d'infrastructure serait utilisé pour la construction de 837 km de nouvelles routes, de 238 km de voies ferrées et de 6,9 km de nouveaux ponts ainsi que de 49 nouveaux barrages. En dehors de ces trois institutions, le budget élevé suivant était celui du ministère de la Religion avec une valeur de 65,1 trillions de rupiah, puis le ministère des Affaires sociales avec 62,8 trillions de rupiah, le ministère de la Santé de 57,4 trillions de rupiah, et le ministère des Transports avec une valeur de 42,7 trillions de rupiah. Selon Sri Mulyani, une augmentation du budget qui a également été accordée au ministère des Affaires sociales de 9,7% en raison de l'augmentation du budget alloué à l'aide fiscale versée par le gouvernement. L'année prochaine, le gouvernement transformera l'aide alimentaire non monétaire ou BNPT en une carte de 9 produits alimentaires de base contenant une aide s'élevant à 150 000 rupiah par mois avec un budget total de 28,1 trillions de rupiah ou une augmentation par rapport à BNPT 2019. Plus tôt, au même jour, dans son discours sur le budget et les dépenses de l'État 2020, le président Joko Widodo a déclaré que RAPBN était axé sur 5 points principaux. Premièrement, renforcer la qualité des ressources humaines pour créer des ressources humaines en santé, intelligentes, qualifiées et prospères. Deuxièmement, l'accélération du développement des infrastructures soutenant la transformation économique. Troisièmement, renforcer les programmes de protection sociale pour répondre aux défis démographiques et anticiper le vieillissement de la population. Quatrièmement, renforcer la qualité de la décentralisation fiscale pour encourager l'indépendance régionale. Cinquièmement, anticiper les incertitudes mondiales. C'est Rita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Yeah.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Hayalan par le groupe musical The Groove. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. Nous nous retrouverons dans notre programme favori, le magazine culturel. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à visiter le musée de Siwalima au Molouk. Le musée Siwalima est un musée important qui a beaucoup d'informations sur les questions liées au Molouk et à la richesse de la nature et de la culture. Ce musée est situé dans la région de Taman Makmur, le village Amasuhu, le district de Nusaniwe, Ambon, au Molouk. Il a été fondé en 1973. Le musée Siwalima est situé dans un lieu exotique car il se trouve sur une colline surplombant directement la baie d'Ambon. Le mot Siwalima est tiré de la langue locale et vient de deux mots, à savoir Ulisiwa, qui signifie collection de neuf, et Patalima, qui signifie collection de cinq. Ces deux mots font référence à neuf royaumes qui contrôlaient le sud des Molouks et cinq royaumes qui contrôlaient le nord des Molouks. À partir de ces deux mots, créant ainsi un nouveau sens, Siwalima qui représente une richesse de l'histoire, la nature et la culture des Molouks, la terre des rois. La création du musée de Siwalima a débuté avec la loi néerlandaise qui obligeait les Pays-Bas à renvoyer des documents historiques aux Molouks en 1970. Le nombre de ces documents historiques était stocké et nécessitait un lieu pour qu'ils soient plus utiles. Puis, on a trouvé un emplacement qui était autrefois le bâtiment du siège de la libération de l'Iran occidental est appelé Taman Makmur. Cet endroit est finalement devenu le lieu de la fondation du musée et sert à exposer et accueillir des éléments historiques de la subvention néerlandaise. Chers auditeurs du centre-ville, Le musée ne se trouve qu'à 5 km et est accessible en 10 minutes environ en véhicule motorisé. Le musée Siwalima est un outil pédagogique efficace pour la génération actuelle de connaître la vie des Moulouks du passé. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui, intitulé « Le musée de Siwalima au Moulouk ». Merci de votre attention, à demain.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayumu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Apabila nanti kau rindukanku di dekatmu, tak perlu kau risaukan, aku pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali.
kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali, hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali, aku pasti kembali, aku pasti kembali.
Chers auditeurs, c'était la chanson d'Elo intitulée « Aku Pasti Bisa ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ». Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc « Apprendre l'Indonésien ». Le sujet d'aujourd'hui est « Apa yang biasanya kamu lakukan ?» ou en langue française, « Que fais-tu habituellement ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation et un pour titre « Apa yang biasanya kamu lakukan ?» ou en langue française « Que fais-tu habituellement ?» Tony et la famille de Joko se rendent sur la plage Parangtritis. Ils conversent près de la plage.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan? En français, que fais-tu habituellement? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Biasanya, biasanya, en français, habituellement. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? En français, que fais-tu habituellement quand tu es à la plage? Berjemur, berjemur, en français, bronzer. Berenang, berenang, en français, nager. Bermain voli, bermain voli, en français, jouer au volleyball. Berselancar, berselancar, en français, surfer. Kalau kamu, kalau kamu, en français, et toi. Makan bersama, makan bersama, en français, manger ensemble. Bermain pasir, bermain pasir, en français, jouer avec le sable. Pada akhir minggu, en français, à la fin de la semaine. Ketika libur, en français, pendant ton jour de congé. Ketika di taman, en français, quand dans le parc, mengobrol, mengobrol, en français, converser. Teman, teman, en français, ami. Dans le dialogue, vous entendez Dinda demander apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? En français, que fais-tu habituellement quand tu es à la plage? L'expression apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan? En français, que fais-tu habituellement? Est utilisé pour connaître les activités qu'une personne accompli normal lemang dans zong liu ou dans certaines périodes de temps. Exemple, apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? En français, que fais-tu habituellement dans le week-end? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? En français, que fais-tu habituellement pendant ton jour de congé? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? En français, que fais-tu habituellement lorsque tu es dans le parc? Voici des exemples de réponses à ces questions avec des phrases complètes. Exemple, pada akhir minggu, biasanya aku berenang dan bermain voli. Pada akhir minggu, biasanya aku berenang dan bermain voli. En français, le week-end, habituellement, je nage et joue au volleyball. Ketika libur, biasanya saya berenang dan berselancar. Ketika libur, biasanya saya berenang dan berselancar. En français, pendant mon jour de congé, d'habitude, je nage et surf. Ketika di taman, biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. Ketika di taman, biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. En français, quand je suis dans le parc, je mange habituellement avec des amis et nous bavardons. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Chers amis, c'est la rubrique apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat gelisah, daun-daun jatuh
cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson de Cinnamon intitulée Selamanya Cinta. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voicenews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à tous. Cette édition va vous présenter la chanson de Kroncong intitulé Sepasang Mata Bola, ou en français Une paire de globes oculaires. Cette chanson a été créée par Ismail Marzuki en 1946. Dans cette chanson, l'auteur raconte une histoire d'amour en temps de lutte. Cette chanson s'agit de l'atmosphère de la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie. Dans les paroles de cette chanson, on décrit également quelqu'un qui est tombé amoureuse à première vue. Elle espère se revoir encore. Bon, voici la chanson intitulée Sepasang Mata Bola, chantée par Sundari Sukojo. Bonne écoute.
Oh, Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.